Chapitre 3 La couronne de la folie. Pendant que la princesse filait en catimini vers sa chambre, j'ai accompagné Flore dans la galerie du rez-de-chaussée. Là, dans un petit cabinet dissimulé sous un escalier, elle a entrepris de rajuster sa toilette et sa coiffure. Puis elle a baigné ses poignets meurtris dans l'eau froide. C'est bien que tu sois là, a-t-elle brusquement déclaré en me regardant dans le miroir. Tu arrives à temps pour prendre ma place. J'ai veillé sur Amandine aussi longtemps que possible, mais j'ai atteint le terme de ma vie humaine. Je vais devoir rejoindre les miens de l'autre côté de la grille. Ce qui signifie que la princesse va se retrouver seule, exposée aux manigances de Zafar, le premier ministre. Pourquoi lui en veut-il, ai-je demandé. Nous sommes quelques-unes à penser qu'il prépare un coup d'État, a chuchoté Flore d'une voix à peine audible. Il espère se débarrasser du roi et s'emparer de la couronne. Seulement voilà. Il y a un petit problème. Si le roi mourait, Amandine hériterait du trône. La population n'admettrait pas que la couronne passe à quelqu'un d'autre. Toutefois, la situation serait différente si, par malheur, la princesse périssait dans un accident. Alors Zafar pourrait jouer les sauveurs, expliquer qu'il se dévoue pour le bien du royaume, pour lui éviter de sombrer dans l'anarchie. Ce genre de fadaise. Il deviendrait le maître. Vous avez des preuves de ces manigances? Hélas, non. Il est bien trop habile. Ses espions sont partout. Tu veux voir ce qu'il advient de ceux qui osent se dresser contre lui? J'ai dit oui. J'avais l'estomac serré. Décidément, les choses se présentaient mal. Après avoir farfouillé dans un tiroir, Flore a dissimulé les meurtrissures de ses poignets sous des rubans, puis nous avons quitté le cabinet. Elle m'a traîné à travers couloirs et galeries, boudoirs et salons. Le décor était beau, mais curieusement vide. J'ai remarqué que le dessus des meubles disparaissait sous un fouillis de bibelots. Des figurines de porcelaine, très délicates, d'une extraordinaire finesse, et qui représentaient des hommes, des femmes en costume de cour. Il y en avait des centaines. Sur les canapés de velours rouge, des chats noirs se prélassaient. De temps à autre, ils sautaient sur les commodes, les buffets et renversaient les statuettes qui se brisaient en tombant sur les dalles. J'ai trouvé ça dommage, de si belles figurines. Alors, tu as compris? M'a demandé Flore en m'entraînant à l'écart. J'ai dit, quoi? Serais-tu bête? S'est impatientée la demoiselle de compagnie. C'est évident pourtant. Les statuettes, ce sont les anciens courtisans du palais. Zafar a utilisé la magie pour les transformer en bibelots de porcelaine. Chaque fois que ces espions, les bonhommes, lui rapportent qu'un duc, qu'un baron a marmonné dans son sommeil des propos insultants à l'égard du premier ministre, il le condamne à l'exil. L'exil, selon Zafar, c'est ça. La relégation sur le dessus d'une commode à la merci de ses chats. Je n'en revenais pas. M'approchant d'un buffet en bois précieux, j'ai saisi une statuette pour l'examiner de plus près. C'était celle d'une jeune femme, très belle, en robe longue. On distinguait même le grain de beauté qu'elle avait sur la joue gauche. Ils ont beau être en porcelaine, a murmuré Flore. Ils sont encore vivants. Ils voient, ils entendent, ils sentent. Quand les chats les brisent sur le sol, ils meurent vraiment. Je comprenais enfin pourquoi le palais m'avait paru si désert. La presque totalité de ses occupants se trouvait répartie au long des étagères ou sur le dessus des cheminées. « Zafar est puissant, » a repris Flore. « Quand je dis qu'Amandine est en danger, je n'exagère pas. » Tôt ou tard, il se débarrassera du roi. Puis, il s'en prendra à la princesse. Tu dois empêcher cela. Tu me remplaceras auprès d'elle quand je ne serai plus là. » L'un des chats a essayé de me griffer. Manifestement, il considérait que les statuettes lui appartenaient. Il en était le geôlier et le bourreau. J'ai lancé un coup d'œil attristé aux autres figurines. J'ai pensé qu'elles devaient vivre dans la peur que les matous de Zafar ne s'amusent à les pousser dans le vide, d'un coup de patte. Une fois brisées, il était sûrement impossible de les ramener à la vie. « Viens !» a ordonné Flore. « N'attirons pas l'attention des bonhommes. » Nous avons repris notre déambulation au long des galeries. Zafar ne tolère que les courtisans inoffensifs, les flatteurs, les imbéciles, a repris la fille des Sylves. C'est pourquoi Amandine s'applique à jouer les coquettes et à suivre toutes ses leçons stupides. Tant que le premier ministre la prendra pour une idiote, elle sera en sécurité. Ici, seuls les idiotes ont une chance de survivre. J'ai bien enregistré la leçon. Ce Zafar me devenait de plus en plus antipathique. Les chats noirs nous avaient pris en filature. Ils miaulaient de manière menaçante en exhibant leurs petits crocs fins comme des aiguilles. En fait, ai-je dit en embrassant du regard les statuettes entassées au long de la galerie. Ce palais est une prison. C'est cela même, a confirmé Flore. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras toi-même changé en statuette, à prier pour que les chats geôliers ne te fassent pas tomber sur le sol au cours de leur promenade. Quand tu rencontreras le premier ministre, joue les nigaudes. Raconte-lui que tu es une écolière invitée au palais parce que tu as gagné un concours ou je ne sais quoi. Dis-lui que tout est beau, magnifique, et remercie-le à genoux. À présent, cache-toi dans un coin et fais-toi oublier. Je dois rejoindre Amandine pour sa leçon de sourire. Elle s'est éloignée d'un pas léger, m'abandonnant au milieu des chats noirs. À force de déambuler, j'ai déniché une espèce de petit cabinet de lecture, une bibliothèque, envahie par les toiles d'araignées, signe qu'il n'était guère fréquenté. Je m'y suis recroquevillée au fond d'un fauteuil de velours rouge. Pour dire toute la vérité, je ne me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression très nette d'être observée. J'ai pris un livre au hasard pour faire semblant de lire. Du coin de l'œil, je surveillais le miroir fixé au-dessus de la cheminée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir la tête d'un passe-muraille émerger de la cloison. Je me suis appliquée à jouer les filles bien sages en suivant les mots avec mon doigt sur la page. « Il l'était une fois », ai-je annonné pour donner le change. Rassuré, le bonhomme a fichu le camp. Une fois seul, je me suis approchée de la fenêtre. J'ai tressailli en apercevant sur l'une des terrasses du palais un homme de haute taille, enveloppé dans une cape noire. Il marchait à pas lents, les mains dans le dos. Il a dû sentir qu'on le regardait, car, brusquement, il s'est tourné et a levé la tête en direction de ma fenêtre. Son visage était dissimulé par un masque de porcelaine blanche, anonyme, percé de deux trous à l'emplacement des yeux. Rien de plus. On aurait dit un fantôme. J'ai fait un bond en arrière, mais c'était trop tard. Il m'avait aperçu. Aussitôt, il a fait demi-tour pour rentrer dans le palais, et j'ai su qu'il allait se lancer à ma recherche. J'ai eu envie de m'enfuir à toutes jambes. Paralysée par la peur, je suis restée là, au fond du cabinet de lecture, à écouter les pas qui se rapprochaient. Pour dissimuler le tremblement de mes doigts, j'ai repris le livre de comptes. Les bottes du premier ministre claquaient sur le parquet de la galerie au bibelot. Les chats geôliers ont miaulé de plus belle pour saluer son arrivée. Son ombre s'est allongée sur le sol, immense. Elle a pénétré dans la bibliothèque longtemps avant lui. comme si, craignant un guet-apens, on l'avait envoyée en reconnaissance. Elle avait l'air presque vivante, cette ombre, furetant partout tel un chien de chasse. Enfin, Zafar a franchi le seuil et s'est immobilisé dans l'encadrement de la porte. « Qui es-tu, toi que je vois fureter dans le palais depuis hier » a-t-il demandé d'une voix rocailleuse. J'ai débité le comte à dormir debout suggéré par Flore, le concours, l'écolière invitée par la princesse. « Je suis là pour 3 jours, ai-je débité en me forçant à sourire. C'est magnifique. C'est le plus beau jour de ma vie. Je vous promets que je ne dérangerai personne. Je me ferai toute petite. » Je l'ai entendu ricaner sous son masque. Peut-être parce que ma stupidité l'amusait. Mais peut-être également parce qu'il ne croyait pas un mot de ce que je venais de lui dire. « Je suis Zafar, a-t-il déclaré, le premier ministre. Tu dois te demander pourquoi je porte ce masque, n'est-ce pas ? C'est parce que je suis très laid. Quand j'étais bébé, une sorcière m'a jeté un sort. Depuis, tous ceux qui voient mon visage, ne serait-ce qu'une seconde, meurent foudroyés par la terreur. Si je l'ôtais là, tout de suite, tes cheveux deviendraient blancs, tes yeux se révulseraient et tu tomberais morte avant même d'avoir eu le temps de pousser un cri. Parfois, quand je me promène seule dans la forêt, il m'arrive de l'enlever. Tu me croiras si tu veux, mais même les loups, les ours ou les sangliers tombent foudroyés en m'apercevant. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin d'une arme pour chasser. Ma meilleure arme, c'est mon visage. » Pendant qu'il parlait, il ne cessait de tripoter son masque, comme pour me faire comprendre qu'il lui suffirait d'un geste pour l'ôter, et que ce geste, il allait peut-être le faire, là, tout de suite. J'ai bien senti qu'il me menaçait, l'air de rien. Mais j'ai continué à sourire niaisement, les doigts crispés sur mon bouquin. Zafar a fait 2 pas pour se rapprocher de moi. Brusquement, il a tendu sa main droite, gantée de cuir, pour me caresser le menton. « Burk. Tu es très mignonne, » a-t-il sifflé d'un ton bizarre. « Sais-tu que tu ferais une bien jolie figurine de porcelaine ? Une figurine que je pourrais poser sur mon bureau pour la contempler. Du moins, jusqu'à ce que l'un de mes chats la flanque par terre. C'est terrible, ce dallage de barbe, n'est-ce pas ? Les bibelots s'y cassent en 1000 morceaux. Impossible ensuite de les recoller. » J'avais la chair de poule. Enfin, il m'a salué d'une courbette et s'est retiré en me souhaitant un bon séjour. Je me suis rendu compte que j'étais en sueur. Il m'a fallu un certain temps pour me calmer. J'avais la conviction que Zafar connaissait la raison de ma venue au palais. J'étais en danger. La leçon de sourire s'est enfin terminée et Amandine a pu me rejoindre dans le cabinet de lecture. Je lui ai rapporté tout ce que m'avait dit Flore. Elle a paru ennuyée et s'est mise à jouer avec son éventail. « Flore exagère, » a-t-elle murmuré. « Elle a toujours veillé sur moi. Aussi a-t-elle tendance à voir des dangers partout. » Zafar est ambitieux, c'est certain, mais il ne pourrait pas coiffer la couronne. C'est impossible. De cela, je suis bien certaine. Pourquoi donc ? D'un joli mouvement de son éventail, elle m'a fait signe de la suivre. Le moindre de ses gestes était d'une grâce exquise. On voyait qu'elle suivait des cours. Moi, affublée d'une pareille robe, je me serais mélangé les pieds et affalée comme une gourdasse. Amandine m'a conduite dans une salle dépourvue de fenêtres, une pièce ronde surchargée de moulures dorées. Des statues de rois se dressaient tout autour. Certaines avaient l'air de remonter à la nuit des temps. Au centre de la pièce, posée sur un bloc de marbre blanc, se tenait la couronne du roi Anagathos VI, son père. Je m'attendais à un truc très beau, en or, incrusté de pierres précieuses. Un vrai machin d'empereur, quoi. Je me trompais. La couronne était en fer noir, un peu tordue, comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle paraissait lourde, menaçante. On n'avait pas envie de la toucher. « On la surnomme la couronne de la folie », a murmuré Amandine. « Elle a été forgée par un magicien en des temps anciens. Elle a le pouvoir de rendre intelligent celui qui la porte. Quand le roi la pose sur sa tête, il trouve immédiatement la solution qui convient. Son esprit devient lucide, clairvoyant. Tout à coup, il sait ce qu'il convient de faire, quelles mesures prendre pour éviter la guerre, la famine. » Toutes ces solutions lui sont soufflées par la couronne magique. Même s'il n'est pas très intelligent, la couronne fera de lui un génie de la diplomatie, du moins tant qu'il la portera. Car, sitôt ôté, il redeviendra un homme ordinaire. « Pourquoi ne la porte-t-il pas en permanence, alors ? » ai-je demandé. « Parce qu'il deviendrait fou, » a répondu Amandine d'une voix qui trahissait la peur. Son cerveau, survolté par l'énergie de la couronne, se mettrait à battre la campagne. Ça s'est déjà produit, tu sais. Anagatos Ier, passant outre les conseils de son premier ministre, a voulu la porter tous les jours. Son esprit n'y a pas résisté. Au bout d'une semaine, il se prenait pour un chien et courait à quatre pattes en aboyant. Il a fallu le destituer et nommer un successeur. « Non, on ne peut coiffer la couronne qu'une heure par jour, au grand maximum. » C'est ainsi que procède mon père. Il la pose sur sa tête, le temps de résoudre les problèmes du royaume, puis la remet ici, sur son socle, jusqu'au lendemain. Au bout de 45 minutes, il souffre déjà d'une atroce migraine. Tu imagines ce qu'il arriverait s'il insistait. Je me suis avancée d'un pas, pour mieux contempler la couronne magique. Elle m'a semblé encore plus dangereuse. « C'est une espèce d'amplificateur d'intelligence, » a repris Amandine. « Il faut en user avec modération, sinon on s'expose à de graves ennuis. » « Pourquoi paraissez-vous aussi certaine que Zafar ne pourra pas s'en emparer ? » ai-je demandé, car ce dernier point ne me semblait pas très clair. Parce qu'elle ne lui serait d'aucune utilité. La couronne ne fonctionne qu'à condition d'être posée sur une tête royale, a expliqué Amandine. Je veux dire qu'il faut avoir dans les veines le sang des Anagatos, celui-là et aucun autre. Le magicien qui l'a forgé avait pensé à tout, vois-tu. Si un quelconque manant s'en coiffait, son cerveau se mettrait aussitôt à bouillir et sa tête exploserait. Seule la dynastie des Anagatos est autorisée à la ceindre. C'est bien ainsi. Voilà pourquoi Zafar ne pourra jamais l'utiliser. Il mourrait à l'instant même où elle toucherait son front. Quant au peuple, il n'accepterait pas d'être gouverné par un roi sans couronne. Et s'il en fabriquait une fausse, ai-je suggéré? Ça ne tromperait personne. Sans le secours de la vraie couronne, aucun roi ne serait assez intelligent pour manœuvrer la serrure magique qui protège le trésor royal. Mon père a essayé, tête nue, à plusieurs reprises. Il a dû renoncer car il n'y comprenait rien. Le mécanisme est bien trop complexe. Et il n'existe aucun mode d'emploi. C'est seulement quand il met la couronne que la solution lui apparaît, lumineuse, évidente. Non, Zafar ne pourra jamais ceindre la couronne de fer. Pas plus qu'il ne pourra accéder au trésor entassé dans les caves du palais. Dans ce cas, si c'est pour rester pauvre, à quoi lui servirait-il de devenir roi? Bon, ça se tenait, je n'ai pas insisté. Au moment où nous quittions la pièce, Amandine a ajouté « La légende prétend que la couronne est maudite. » Parce qu'elle condamne irrémédiablement les rois à la folie. Cela se fait peu à peu au fil des années. À force de l'utiliser, leur esprit se détraque et ils finissent par se conduire bizarrement. « Et ton père, ai-je demandé, il va comment ?» Amandine a grimacé. « Je ne sais pas. Des fois, il se comporte étrangement. » Ça m'est difficile de répondre car je ne le vois pas souvent. Il en va ainsi dans les familles royales. Les enfants ont peu de contact avec leurs parents. J'ai surtout été élevée par des nourrices, des servantes. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Je ne l'avais rencontrée que deux fois depuis ma naissance. C'était pour moi une parfaite inconnue.